dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
Soyons clairs, Clint Eastwood ne peut pas être réduit à un seul genre. Sa formidable filmographie est remplie d'œuvres variées. Malgré tout, je vous le demande, à quoi l'associe-t-on en premier ? Au western, bien sûr, qui a fait sa gloire. Sorti en 1992, Impitoyable est l'un de ses westerns, une œuvre crépusculaire qui reste un joyau. Le scénario d'Impitoyable circule à Hollywood dès 1976. Son auteur s'appelle David Webb Peoples, il écrira plus tard Blade Runner et L'Armée des 12 singes. Il y raconte comment des prostituées offrent 1000 dollars de récompense à celui ou celle qui tuera les deux cow-boys qui ont tailladé l'une d'entre elles. Un jeune ambitieux rend visite à un tueur repenti, retiré dans une ferme isolée, pour le convaincre de venir avec lui, exécuter la mission et récupérer la prime. À ce moment-là, le titre n'est pas encore choisi. Première piste, The Cut Holes Killings, littéralement les meurtres commis par les prostituées tailladées. Autre possibilité, The William Money Killings, les meurtres commis par William Money. William Money, c'est le vieux tueur retiré que j'évoquais à l'instant dans le résumé de l'histoire. En 1984, Francis Ford Coppola rachète les droits du scénario. Clint Eastwood s'y intéresse aussi, le lit et rachète à son tour ses droits en 1985. Il aime l'histoire, mais se dit qu'il n'est pas encore assez vieux pour jouer le rôle. Il a 55 ans à cette époque, il laisse donc le film dans un tiroir. En 1990, Eastwood enchaîne Chasseur blanc, cœur noir et La relève. Il revient ensuite au film qui s'appellera Impitoyable, Unforgiven en anglais. Cette fois, il a 61 ans. Le projet lui plaît toujours autant. Il a envie que ce soit son dernier western, un genre dont il veut détourner les codes. Armé du scénario de David Webb Peoples, il démarre son casting. Il ne joue pas toujours dans les films qu'il réalise, mais là, il s'attribue donc le rôle de William Money, l'ex-tueur repenti tiré de sa retraite pour une dernière mission, celle commanditée par les prostituées. Pour le rôle de Ned Logan, ami proche de William Money embarqué lui aussi dans l'expédition, Eastwood est contacté par Morgan Freeman, qui a été mis au courant du projet par Kevin Costner, qui s'y était lui aussi intéressé. Pour le rôle du shérif local, le cinéaste convainc Gene Hackman. L'ironie, c'est que Hackman connaît déjà le scénario et n'avait pas été emballé parce qu'il le trouvait trop violent. Jusqu'à ce que Clint Eastwood prenne les commandes du film et lui propose le rôle. Gene Hackman s'inquiète du fait que le film puisse glorifier l'usage des armes à feu. Eastwood lui assure que ce ne sera pas du tout le cas. Dans cette scène située à la fin du film, une confrontation tendue dégénère en fusillade. Désireux de venger la mort de son ami Ned Logan, William Money débarque dans le saloon et promet au shérif joué par Gene Hackman qu'il est là pour le tuer. La violence est là, oui, mais elle n'est effectivement pas présentée sous un jour glorieux.
Just hold it right there. Hold it! Cowardly son of a bitch. You just shot an unarmed man.
Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend.
You'd be William Money out of Missouri. Killer of women and children.
That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. I'm here to kill you, little Bill.
Richard Harris, l'acteur irlandais revu plus tard dans Gladiator et les deux premiers Harry Potter, joue un chasseur de primes. L'une des prostituées est incarnée par Frances Fisher, alors compagne de Clint Eastwood, et qui jouera 5 ans plus tard dans le Titanic de James Cameron. À l'occasion de vacances passées au Canada, le cinéaste avait repéré une zone dans l'état de l'Alberta. C'est là qu'il vient poser ses caméras. Le tournage d'Impitoyable dure un peu plus de 2 mois et demi, du 26 août au 12 novembre 1991. Située près de Calgary, la région est alors en proie à de la sécheresse. Du coup, les séquences de pluie sont tournées avec une pluie artificielle. La scène où il neige, en revanche, a de la vraie neige tombée de manière totalement inattendue. Tout au long du tournage, aucun véhicule à moteur n'est autorisé sur le plateau, histoire de préserver l'authenticité du lieu. Clint Eastwood porte les mêmes bottes qu'il avait pour Rawhide, la série télé qui lui a permis de percer. Si la bande originale est confiée à Lenny Niehaus, compositeur sur plusieurs films d'Eastwood, le cinéaste écrit lui-même le célèbre thème principal, interprété à la guitare. Dédié à Sergio Leone et à Don Siegel, les deux menteurs de Clint Eastwood, Impitoyable sort aux États-Unis le 7 août 1992, 4 jours après l'avant-première à Los Angeles. La distribution se fait ensuite à l'international jusqu'à la fin de 1992 et tout au long de 1993. En France, il sort le 9 septembre 1992. Célébré par les critiques, le film est aussi un beau succès au box-office. Il récolte 159 millions de dollars à travers le monde, alors qu'il n'en a coûté que 14. Alors que ses 3 derniers films avaient été des échecs, Impitoyable permet à Eastwood de renouer avec le succès. En France, près de 800 000 spectateurs font le déplacement. Aux Oscars 1993, le film est nommé dans 5 catégories. Il repart avec 4 statuettes, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle masculin pour Gene Hackman et meilleur montage. L'Oscar du meilleur réalisateur est le premier de la carrière d'Eastwood. Impitoyable n'est que le 3e western à remporter l'Oscar du meilleur film, après La ruée vers l'Ouest en 1931 et Danse avec les loups en 1991. Impitoyable est aussi le dernier western réalisé par Clint Eastwood.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.